Si nous nous taisons, écrivait Christian de Chergé, les pierres de l'Oued, encore baignées de leur sang sauvagement répandu, hurleront la nuit. Le prieur du monastère de Tibirine parlait en ces termes de 12 ouvriers croates habitués de ces messes et assassinés par le GIA le 14 décembre 1993. Comme chacun sait maintenant, grâce au très beau film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, ces 7 moines trappistes de Notre-Dame de l'Atlas furent sauvagement assassinés en mars 1996. Mais leur dilemme, rester pour témoigner et non pour convertir ou partir afin de sauver sa vie, ce dilemme, eh bien, il est devenu celui de quelques 14 millions de chrétiens d'Orient. Il faut cependant bien distinguer le cas du Maghreb, d'où les chrétiens avaient pratiquement disparu dès la fin du 8e siècle, de celui de pays comme la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban, où la présence chrétienne est attestée dès l'époque fondatrice et où elle s'était maintenue jusqu'à nos jours. En Irak, au Liban, en Syrie, en Palestine, les chrétiens qui tentent de survivre en pratiquant la religion de leurs ancêtres appartiennent pleinement au monde arabe. Ils ont joué un rôle capital dans la préservation, la transmission, la traduction des textes de l'Antiquité grecque. Ils ont été aux avant-postes de la modernité arabe, de la constitution des identités nationales et même des luttes indépendantistes. Et cependant, parce qu'ils avaient en commun avec le colonisateur un même credo, ils ont été regardés avec suspicion. Aujourd'hui, ils sont persécutés sur le soupçon d'acquaintance avec l'Occident et ils s'en vont, lente hémorragie par familles entières vers des cieux plus tolérants. S'ils formaient près de 15% de la population du Proche-Orient au début du siècle XXe, ils n'en constituent plus aujourd'hui que 6,5%. Or, il en va non seulement du droit de l'homme à professer la religion de son choix, mais aussi des traditions de convivialité et de tolérance interreligieuse de ces pays. Car là où l'on fait la chasse aux chrétiens, ce seront demain les chiites ou les druzes qui seront à leur tour persécutés.
On discute et on débat de ces questions ce soir avec Annie Laurent. Annie Laurent qui est docteur d'État en sciences politiques, spécialiste des chrétiens d'Orient et des relations islamo-chrétiennes. Elle vient d'être nommée experte au synode des évêques pour le Moyen-Orient. Et Annie Laurent est l'auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître ?» Entre souffrance et espérance, c'était paru aux éditions Salvator en 2008. À ses côtés, Raphaël Delpart, qui est écrivain et cinéaste, qui a signé lui aussi un ouvrage consacré aux chrétiens d'Orient, « La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le Monde, sorti aux éditions Michel Lafon en 2009. Nous sommes également avec un confrère journaliste, un journaliste à l'AFP, Jean-Michel Cadiot, qui a signé plusieurs ouvrages sur l'Irak et la politique française et qui va publier, on a déjà eu les épreuves, aux éditions Salvator, Les chrétiens d'Orient, vitalité, souffrance et avenir. Et puis nous sommes au téléphone depuis Istanbul, avec Sébastien de Courtois, qui est historien et juriste, chercheur à l'école pratique des hautes études. Sébastien de Courtois, qui lui aussi a plusieurs ouvrages à son actif. Nouveau défi des chrétiens d'Orient d'Istanbul à Bagdad, c'est paru chez Lattès en septembre 2009. Et puis apparaître très prochainement la Turquie biblique, itinéraire culturel, c'est aux éditions Empreintes temps présent.
Alors je vais commencer avec vous parce que vous êtes sur place à Istanbul, Sébastien de Courtois. On se souvient vaguement que Mgr Paul Rao a été tué, l'archevêque de Mossoul a été tué en mars 2008. Mais en Turquie même, Mgr Padovese a été assassiné à Iskenderun le 3 juin dernier, c'était cette année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas la une des journaux. On sent une certaine gêne des médias européens à rendre compte des persécutions dont sont victimes les minorités chrétiennes dans les pays majoritairement musulmans. On se dit, non sans raison, qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu et que la situation est suffisamment délicate pour eux là-bas. Et c'est vrai. Attirer l'attention du public sur ce qui est en train d'arriver aux chrétiens d'Orient, est-ce que ce n'est pas le risque de précipiter le monde dans ce fameux clash des civilisations qu'on nous promet, de faire une prophétie autoréalisatrice et à laquelle nous autres Européens, nous avons tout à perdre? Alors, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut se taire?
Merci d'abord pour cette question. Effectivement, je pense que ça se pose de manière assez aiguë en ce moment. Moi, je pense qu'il faut en parler parce que tout simplement, on n'en parle pas beaucoup. On en parle très, très peu.
Est-ce que c'est bon pour eux là-bas?
Oui, alors ça dépend comment l'on en parle. S'il s'agit d'informer le public, le large public, d'une meilleure manière, effectivement, ça serait très important et c'est ce que nous faisons tous avec nos ouvrages, c'est-à-dire une volonté véritablement d'informer bien surtout, parce qu'il faut faire très attention à ne pas généraliser les situations. Chaque pays est vraiment différent et voilà, donc chaque communauté aussi a sa propre logique. De manière générale, oui, il faut en parler, oui, il faut informer, Et il faudrait que ces titres, vous évoquez l'assassinat de Mgr Raoult, donc l'archevêque de Mossoul l'année dernière, il faudrait que ça fasse la une des quotidiens. Ce sont des sujets extrêmement importants. Ce sont des communautés, surtout la communauté irakienne, qui est persécutée parce que c'est une communauté religieuse différente des autres. Et voilà, il y a des titres beaucoup moins importants qui nous sont rabâchés tous les jours. Pour une fois qu'on a des sujets d'importance qui mêlent la culture, qui mêlent l'histoire et qui mêlent l'actualité de manière aussi intense et qui nous concerne directement, parce que ce sont des gens avec lesquels nous partageons un certain héritage spirituel tout de même. Et je pense qu'il faut effectivement en parler, mais en parler bien. C'est surtout ça auquel je suis très, très attentif, parce que quand on vit dans les pays, donc je vis en Turquie, on se rend compte qu'il y a des sensibilités, il y a des nuances qui sont très, très importantes.
Alors je vais vous citer un article déjà un petit peu ancien d'un journal libanais, Al-Mustaqbal, qui écrit la chose suivante. « Mais ils se font discrets au point d'être presque invisibles, ces chrétiens. Cet exode silencieux, une situation aboutira en moins d'une décennie à une situation analogue à celle des Juifs orientaux. » Et on sait que les Juifs orientaux ont disparu de ces pays où ils ont été effectivement persécutés. Est-ce que ce devenir n'est pas inéluctable quelque part, Annie Laurent? Est-ce que véritablement il y a un avenir possible pour les chrétiens dans ces pays où ils sont devenus une minorité trop faible pour pouvoir se défendre?
Il est vrai que la question mérite d'être posée, puisque si on lit l'histoire, le bilan est accablant. Au 7e siècle, lorsque l'islam est apparu au Proche-Orient, donc dans son berceau de naissance aussi, tout le Proche-Orient était chrétien, plus quelques communautés juives qui restaient encore. Et aujourd'hui, dans les 17 pays qui vont être soumis à l'examen du synode des évêques auquel je vais donc participer, sur ces 17 pays, il y a 300 millions d'habitants et plus que 15 millions ou 14 millions, comme vous l'avez dit, de chrétiens. Donc, vous voyez, le déclin est impressionnant depuis les origines. Et il ne cesse, Sébastien connaît bien la Turquie. En Turquie, au début du XXe siècle, il y avait encore 20% de chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont moins de 1% dans un pays qui est dit laïque.
Alors, oui, mais les Arméniens faisaient partie de ces chrétiens et ils ont été massacrés,
oui, tout à fait,
comme on sait.
Oui, mais ensuite, on a instauré la laïcité et elle n'a pas arrêté le déclin. Donc, il y a de quoi être préoccupé sur le maintien d'une présence chrétienne en Orient. Maintenant, d'une manière générale, il est tout à fait inexact de dire que les chrétiens d'Orient vont disparaître, puisqu'ils sont beaucoup dans la diaspora. Ils restent chrétiens orientaux quand même. La plupart d'entre eux gardent leurs rites et tout ça. Mais au Proche-Orient, dans le berceau du christianisme, c'est vrai que c'est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle il y a urgence, c'est pourquoi le Saint-Siège a voulu répondre aux demandes des 7 patriarches catholiques d'Orient de convoquer ce synode.
Alors, on est là pour donner un peu de grain à moudre. J'ai été chercher une enquête de témoignages chrétiens qui revient justement sur cet exode, sur l'hémorragie que connaissent certains pays de leurs chrétiens, de leur communauté chrétienne. Et évidemment, Témoignage Chrétien s'interroge pour savoir si la cause vraiment majeure de ce fléau, c'est s'il faut vraiment d'abord incriminer au premier chef la menace islamiste et les persécutions. Et alors, il s'appuie, l'auteur de cette enquête, sur une étude scientifique qui a été faite sur le sujet dans les années 90. Alors, un sociologue, Bernard Sabella, de l'Université catholique de Bethléem. Et l'enquête indique curieusement que la motivation principale qui pousse les chrétiens palestiniens, ça concerne les chrétiens palestiniens, à l'exil, elle est de nature politico-économique. Ce serait l'instabilité de la région et l'extrême précarité économique qui les ferait fuir et non des raisons religieuses. Chez les Coptes, ce même journaliste avance que des enquêtes ont été faites et que l'émigration est surtout le fait d'une classe moyenne soucieuse d'échapper à une épouvantable situation économique qui est celle que connaît aujourd'hui l'Égypte. Alors peut-être que Jean-Michel Cadio, Témoignage Chrétien, aime toujours prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'on dit, mais si j'en crois ce journaliste, les persécutions ne sont pas la principale cause du départ des chrétiens d'Orient.
Alors, le départ des chrétiens d'Orient, comme l'a rappelé Annie Laurent, il y avait une très très grande proportion de chrétiens il y a encore avant la guerre de 14. Il y a eu ce génocide effroyable qui a fait à peu près 1,5 million de morts au moins chez les Arméniens, mais qui a concerné toutes les communautés chrétiennes, ça c'est peu connu, toutes les communautés chrétiennes, c'est-à-dire aussi bien les Chaldéens, les Assyriens, les protestants même. Et donc il y a eu ce départ des Arméniens, qui sont maintenant à peine 70-80 000 en Turquie. Et puis quelques années après, quand Atatürk a pris le pouvoir et que l'Empire ottoman était désagrégé, il y a eu l'exil, le départ forcé de tous les orthodoxes, disons, pour la Grèce. Il y a un échange des musulmans grecs contre, enfin, c'est une sorte de population assez sordide. Donc, effectivement, la Turquie, c'est terrible, la situation qui s'est passée en Turquie.
Oui, mais là, je vous parle parce que, évidemment, quand on parle des chrétiens d'Orient, on a toujours en tête, soyons honnêtes, le choc des civilisations, le fait qu'aujourd'hui, l'islam serait devenu tellement intolérant qu'il est impossible pour les minorités chrétiennes de rester dans des pays à majorité musulmane. Donc, parlons d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les chrétiens, les minorités chrétiennes, demandent à y immigrer quand elles le peuvent parce qu'elles se sentent menacées physiquement par justement un islam. Alors là, c'est ce que oui, bah, Raphaël si Delpar n'a aucun doute. Son livre, quand on lit son livre, il n'y a aucun doute. Oui, mais alors là, je lis ses enquêtes qui disent le contraire.
Mais oui, je trouve. Raphaël Delpar. Autorisez-moi à vous dire que vous biaisez un peu le débat. Je veux dire, attendez, laissez-moi m'expliquer. Lorsque vous parlez, on vous dit, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? C'est bien les chrétiens dans leur pays, dans, comme dit Annie, dans leur berceau d'origine, qui sont persécutés et qui sont persécutés en raison de leur foi par rapport à un racisme et à une intolérance d'État. Si on prend l'Algérie, qui est un pays avec lequel nous avons un lien, bien entendu, à Tizi Ouzou, l'église va fermer, une église importante à Tizi Ouzou. Je parle pas de ces deux Algériens chrétiens qui ont été traduits devant les tribunaux parce qu'ils avaient rompu le ramadan, etc. Je veux dire, il y a quelque chose de plus grave, sinon, ce qui est déjà une situation très grave, parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourrait développer, par exemple, la situation des chrétiens à Bethléem. Vous parliez tout à l'heure d'un pourcentage qui est absolument faux. C'était 64% lorsque, en 1994, la création de l'autorité palestinienne a été créée, et aujourd'hui, c'est moins de 1%, c'est tout juste 1%. C'est vrai qu'il y a un problème économique, mais le problème économique, il est venu aussi par un phénomène raciste, c'est-à-dire par une espèce de boomerang raciste, en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez
raciste,
sur l'esplanade, je m'explique, sur l'esplanade des...
Tout le monde est arabe, là-bas, non?
Oui.
Les chrétiens, beaucoup de chrétiens d'Orient ont du sang arabe.
Ils les attaquent pas en tant, on ne les tue pas en tant qu'arabes, on les tue en tant que chrétiens.
Ah, donc c'est pas du rap, oui.
Vous avez, sur ce sujet-là, vous avez un phénomène qui est extrêmement grave, qui est le vote à l'ONU. Je lis la dépêche que j'ai reçue de mes amis. C'est tout de même grave puisque si le vote, alors, je rappelle, vous permettez, que je rappelle que l'organisation de la conférence islamique a adopté le 25 mars 2010 au Conseil des droits de l'homme le fait qu'on ne pourra plus blasphémer aucune religion. Alors, bien entendu, ça peut être intéressant vis-à-vis des chrétiens et vis-à-vis des juifs, vis-à-vis de toutes les religions qui existent sur cette terre. Mais aussi, c'est à double tranchant, puisque ça voudra dire aussi qu'on ne pourra pas faire un travail critique normal, comme cela a eu lieu, comme cela a toujours eu lieu, vis-à-vis de l'islam. C'est là, c'est pour ça que...
On a consacré déjà plusieurs émissions à ce Conseil droits de l'homme qui est très problématique au sein de l'ONU.
Voilà.
Et on a déjà eu l'occasion de dénoncer certaines de ces dérives. Annie Laurent.
Oui, je voudrais réagir à tout ça. Vous avez cité l'enquête, très intéressante, mais vous avez noté que ce sont des orientaux, des chrétiens orientaux qui ont répondu à cette enquête. Alors il faut comprendre leur situation, sans forcément la justifier, parce que, bon, vous allez voir. Ces personnes vivent dans un contexte tellement difficile qu'il leur est difficile de dire la vérité. Voilà. Alors on se retranche derrière des raisons économiques, ou le conflit israélo-palestinien, tout ça. Il y a chez eux un phénomène que l'archevêque de Bagdad, Mgr Sulaiman, qui sera au synode d'ailleurs, appelle l'intériorisation de la dhimmitude, ou la dhimmitude intériorisée.
Alors la dhimmitude, vous nous rappelez ce que c'est?
Oui, bien sûr. Mais je reviens aussi. Vous avez dit que les persécutions ont démarré avec l'islamisme contemporain, disons.
Non,
mais...
c'est la perception qu'on peut en avoir.
Oui,
on est là
justement pour
essayer d'informer le public. Oui.
Tout à fait. Alors elles n'ont pas toujours été sanglantes, ces persécutions. Mais justement, depuis les origines, il y a ce statut de la dhimmitude. Il est fondamental de connaître ce statut. Nous devons en prendre conscience. La dhimmitude, c'est un statut juridique imposé par le Coran aux juifs et aux chrétiens qui peuvent rester dans les pays dominés par l'islam, mais avec dans une condition d'humiliation et d'inégalité, avec toutes sortes de mesures qui touchent tous les secteurs de la vie, la politique, la religion, la vie sociale, etc.
Et des impôts particuliers.
Bien sûr, c'est au départ la dhimma. Oui,
alors justement, excusez-moi de vous couper, Annie Laurent, mais précisément, c'est ça l'objet de mon interrogation. Depuis le 7e siècle, ces chrétiens avaient été tolérés par les musulmans. Comment se fait-il que ce soit seulement ces 20 dernières années, en gros, que cette intolérance à leur égard se soit manifestée? Effectivement, le statut d'immi était un statut d'infériorité en matière de droit civique et religieux, mais c'était aussi un statut de protection qui leur était accordé par les États musulmans, par les califes, etc. Or, ces 20 dernières années, on a bien vu que la terminologie laïque, l'État, la loi, la citoyenneté, etc., a été remplacée progressivement dans nombre de ces pays par un vocabulaire religieux. C'est plus le juste ou l'injuste, le permis ou le défendu, c'est le licite et l'illicite. C'est plus le droit, c'est la charia. C'est plus l'État-nation, c'est le califat. Donc on voit bien que quelque part, le vieux nationalisme arabe, porteur de l'idée d'un État laïque qui était incarné, par exemple, on peut, c'est pas, j'en fais pas l'apologie ici, mais par le Baas, par exemple, en Syrie ou en Irak, était assez protecteur à l'égard des chrétiens, parce que c'était des États laïques. Or, ce qu'on voit se développer ces dernières années, Jean-Michel Cadio, si ça va vous intéresser, c'est la réislamisation progressive de ces États, probablement vu l'échec politique de ces mouvements nationalistes et laïques arabes.
Oui,
et les chrétiens sont victimes.
Moi, je serais assez d'accord pour dire que, comme dans cette enquête, à témoignage chrétien, où d'ailleurs j'ai travaillé longtemps, que les raisons de cette migration sont surtout économiques. Il y a des persécutions chrétiennes au Moyen-Orient, c'est sûr. Je ne cherche pas du tout à le nier, j'en parle dans mon ouvrage. Mais il ne faut pas non plus trop noircir le tableau. Il y a en Syrie 1 million, près de 10% de la population qui est chrétienne. Quand on va en Syrie, on voit des églises partout. À Alep, on voit des églises arméniennes partout. Lorsque moi, j'ai vécu longtemps en Irak. En Irak, bon, c'était sous Saddam, d'accord, mais les chrétiens avaient plusieurs ministres, il y avait même une église copte, il y avait beaucoup, beaucoup d'églises, et le patriarche Chéro de Babylone se félicitait d'ériger une église par an. Les coptes sont certes persécutés, mais enfin, ils sont tout de même entre 10 et 14 millions.
En Égypte.
Et en Éthiopie, qui est aussi une église venue de Saint-Marc, ils sont 40 à 45 millions si on compte les protestants. Donc c'est tout de même des communautés très très importantes que j'ai compté à peu près au total à 105 millions. Bon, en comptant la diaspora qui, comme l'a dit Annie Laurent, est très importante et perpétue aussi cette tradition. La diaspora joue un rôle très important maintenant avec Internet, avec les moyens de communication. Alors j'aurais parlé également j'avais commencé en parlant de la Turquie. Donc Atatürk, le génocide et Atatürk qui ont été la cause d'un exode épouvantable. Mais après, il y a eu le conflit israélo-arabe. Et dans cette affaire, les Palestiniens sont patriotes et sont totalement solidaires de leurs frères. Donc, s'il y a cette instabilité dont parlait l'enquête de TC, effectivement, cela a conduit beaucoup de chrétiens. Et c'est ce conflit, la pérennité de ce conflit, qui fait que beaucoup de chrétiens partent. Et pour l'Irak, également, la guerre déclenchée par les États-Unis contre tout mandat de l'ONU, a créé une situation invraisemblable, épouvantable pour les chrétiens, et qui conduit d'ailleurs à sauver de nombreux chrétiens. À peu près la moitié ont dû émigrer ou sont aux frontières, ont se recueilli par les pays arabes et musulmans voisins, la Jordanie et la Syrie, certains sont aussi en Turquie. Donc il y a des raisons géopolitiques à cela. Il n'y a pas que le statut de dimitude, qui d'ailleurs n'est plus vraiment de rigueur. Il y a des lois, c'est vrai, très dures dans certains pays, mais il y a tout de même une vitalité très forte de ces églises qu'il ne faut pas mésestimer. Elles jouent un rôle. Je ne crois pas qu'il soit question qu'elles disparaissent, en tout cas.
Sébastien de Courtois, peut-être on vous a pas entendu sur la question de la réalité de la persécution. Je crois que personne n'en doute, mais des causes du départ et finalement de ce qui provoque cette hémorragie quand même, parce qu'on vient de citer l'Irak. Effectivement, moi j'ai lu des chiffres qui confirment ce que vient de dire Jean-Michel Cadio. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, les chrétiens d'Irak seraient passés d'environ 1 million à 400 000. C'est terrible.
L'Irak, on n'a pas véritablement de chiffres extrêmement précis, mais c'est à peu près une proportion de moitié à peu près de gens qui sont partis ou de gens qui ont été tués. Hein. Il y a plusieurs centaines d'assassinats, voire de milliers depuis 2003. Pour une petite note positive tout de même, je viens à l'instant de rentrer chez moi et j'étais à l'ordination d'un nouveau prêtre à Istanbul pour la communauté chaldéenne, la communauté chaldéenne catholique. Donc effectivement, pour ne pas noircir complètement le tableau, il y a des communautés, il y a des pays pour lesquels ça se maintient ou ça se passe assez bien. Et par exemple pour la Turquie, la situation est un tout petit peu en train de changer, en ce sens que il y a une ouverture du gouvernement, bon, après des années noires, hein, après des décennies de comment dire dirais-je, de chape de plomb sur ces minorités religieuses, où effectivement il y a eu des cérémonies religieuses autorisées dans des églises, qui étaient une église arménienne sur le lac de Vade et une église grecque à Soumela. Bon, alors certains disent que c'est un petit peu de la propagande, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est ça va dans le bon sens. Disons qu'il y a une prise de conscience finalement qui reste des chrétiens, et je crois que le message à faire passer, c'est surtout auprès des gouvernants de ces pays-là, finalement, que c'est leur intérêt à eux de garder leur minorité chrétienne. Vous évoquez le départ des communautés juives d'Irak dans les années 60, c'était catastrophique pour le pays. Bon, les communautés chrétiennes sont très importantes, parce que ce sont souvent des gens, il y a tous les niveaux sociaux, attention, hein, mais il y a parfois une élite, il y a parfois des gens éduqués qui participent à la vie du pays aussi, et qui participent à cette altérité nécessaire qui est indispensable pour toutes ces communautés. Annie Laurent le sait très très bien pour le Liban, par exemple. Donc je crois qu'il faut être optimiste, il faut être très très lucide, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et sur le début de la persécution, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à l'article que vous avez cité. Il me semble que l'enquête date des années 90.
Oui, les années 90, en effet, oui.
Oui, c'est déjà très ancien, si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'évolution a déjà, c'est déjà complètement différent, la mentalité. On est après l'invention de l'islamisme terroriste, on est après l'intervention américaine en Irak, on est après l'ouverture de la Turquie, par exemple, si on se limite au monde turc. Donc déjà, les situations ont beaucoup changé. Donc dans certains pays, oui, il s'agit de persécutions directes, mais nous ne voilons pas la face. Pour l'Irak, les chrétiens sont assassinés parce qu'ils sont chrétiens. Et pour d'autres pays, il faut apporter des nuances. Pour l'Égypte, pour la Turquie, c'est différent. Pour le Liban, chaque pays est différent, mais il y a un radicalisme qui se développe pour des raisons religieuses. Vous évoquiez aussi le fait, pardon, dans votre introduction, que après les chrétiens, ce sera peut-être le tour des chiites. Mais je vous signale que c'est déjà le tour des chiites. Depuis 2003, comptons le nombre de bombes qui ont explosé dans des mosquées chiites aussi. Ça, il faut en avoir conscience.
Vous écoutez France Culture, il est 18h42, du grain à moudre consacré ce soir, vous l'avez compris, aux chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient sont-ils condamnés à disparaître? Et vous venez d'entendre Sébastien de Courtois au téléphone depuis Istanbul. Nous sommes également ici dans ce studio avec Jean-Michel Cadio, qui est journaliste à l'AFP, Annie Laurent, qui est une spécialiste des relations islamo-chrétiennes, et avec Raphaël Delpar, qui demande la parole. Alors je vous la donne. Vous avez écrit un livre, vous, sur la persécution des chrétiens dans le monde.
Oui, aujourd'hui dans le monde, c'est qui regroupe les 50 pays qui sont répertoriés à l'ONU comme étant les pays persécuteurs. C'est-à-dire que ça rassemble aux alentours de 200 millions de gens dans le monde qui sont persécutés en raison de leur foi. Ça va aussi en Amérique latine, ça va aussi dans les anciennes républiques soviétiques. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean-Michel Cadio par rapport à la dimitude. Je suis frappé qu'il n'ait, dans les pays dans lesquels il s'est rendu, qu'il n'a pas été frappé, lui, par la dimitude dans laquelle vivent les chrétiens, que ce soit en Égypte. Moi, je me souviens en Égypte, par exemple, d'immeubles dans lesquels vivent les chrétiens, sur les façades desquels sont inscrits des injures et des menaces en permanence. La dimitude est présente, je dirais, à tous les coins de rue et à tous les carrefours dans tous ces pays-là. Alors, dans les pays, juste pour terminer, vous m'avez interrogé sur les 50 pays qui persécutent les chrétiens. Et les persécutions sont soit administratives, dans les anciennes républiques soviétiques, c'est un peu le cas. Elles sont pas forcément religieuses. Elles sont surtout en Amérique latine aussi sur les problèmes administratifs. Enfin, semble-t-il, certains pays ont, ça a l'air de s'arranger en tous les
Mais
cas.
Vous avez une interprétation de ça, si je vous ai bien lu, Raphaël Delpar, c'est de dire que d'une certaine façon, c'est le destin de l'Occident qui se joue aussi dans la façon dont on va aujourd'hui soutenir ces chrétiens.
Tout à fait. Est-ce
que c'est pas une surinterprétation un petit peu? Parce que ça consiste à dire que les chrétiens d'Orient sont la pointe avancée de l'Occident.
Alors, je me suis peut-être mal exprimé dans mon livre. Mais en tous les cas, moi, ce que je veux dire à travers ce livre, d'abord, moi, je ne suis pas chrétien. Déjà, je tiens à être clair là-dessus.
Vous précisez que vous êtes athée.
Moi, je suis athée. Et ce qui m'a fait fonctionner, c'est justement, entre guillemets, les droits de l'homme. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, au 21e siècle, les femmes et les hommes peuvent-ils être persécutés en raison de leur foi, d'accord ? Avec des outils comme l'ONU, la Commission des droits de l'homme, etc. Mais moi, je ne dis pas qu'ils sont le point avancé de l'Occident. Ils l'ont été. Je crois que vous rappelez tout à l'heure, ou Annie le rappelait tout à l'heure, qu'ils ont, les chrétiens d'Orient, ont évangélisé l'Europe. D'ailleurs, je crois que c'est dans votre présentation, vous le disiez. Et ils ils ont été le pont indiscutable entre l'Orient et l'Occident. Ce que j'ai essayé de dire, peut-être que je me suis mal pris dans ce livre, c'est en tous les cas que si les chrétiens d'Orient disparaissent, c'est un pont de l'Occident qui va disparaître. Oui, c'est ça. C'est ça ma démarche.
Annie Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation?
Disons, moi j'aurais préféré revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant les causes actuelles de la réislamisation, parce que je crois que c'est important, surtout dans le cadre d'une émission de cette qualité. Il y a la réislamisation des sociétés musulmanes du Proche-Orient. Mais ce n'est pas venu comme ça, par hasard, bien entendu. Au début du XXe siècle, il y avait un courant de laïcisation, vous l'avez rappelé, où on mettait en avant la citoyenneté par rapport à l'appartenance confessionnelle. Mais ce courant-là était déjà concurrencé par les frères musulmans, les confréries islamistes, qui voulaient le tout islam. Et finalement, moi, je vois la concomitance entre la création de l'État d'Israël en 1948, je ne porte pas de jugement de valeur, je constate un fait simplement, géopolitique. Et Israël est un État confessionnel, même s'il est démocratique, mais il est confessionnel, le Liban aussi. Et c'est à ce moment-là que le tout islam a prévalu sur la citoyenneté où tous les ressortissants d'un même pays auraient été traités à égalité par la loi, par l'État, etc. J'ai l'habitude de dire que la création d'Israël, en tant qu'elle est conçue comme ça, a contribué, bien sûr seulement, à reconfessionnaliser une région qui était plus ou moins tentée, je dis bien, il faut toujours nuancer, plus ou moins tentée par une certaine laïcisation. Je voudrais revenir aussi sur
Excusez-moi de vous interrompre, mais historiquement, ça me paraît assez difficile à soutenir, puisque, en fait, ce processus de laïcisation de la région, il date surtout des années 50. Ça a été initié par Nasser, en réalité, dans les années 50, et les prises du pouvoir par les parties basses en Irak et en Syrie datent, si je me souviens bien, des années 60 et 70. Donc c'est bien postérieur à la création d'Israël, alors que la réislamisation et l'échec de ces régimes laïcs, encore une fois, quelques jugements qu'on puisse porter sur eux, est tout récent. C'est les suites de la révolution iranienne de 79. Donc je vois pas très bien le rapport avec la création d'Israël.
Et la fin du mur de Berlin, et la fin du communisme.
Absolument.
Les courants intellectuels qui faisaient la promotion d'une égalité de citoyens sont bien antérieurs à 1950 ou 60.
Oui, le panarabisme naît dans les années 30. Et les premiers courants nationalistes également, d'ailleurs, ils sont portés par des chrétiens, Michel Aflaq, etc.
Mais
ils prennent jamais le pouvoir les années 60 et 70.
Oui, mais ils n'ont jamais été laïcs au sens où on entend en Occident. C'est pour ça que je préfère dire laïcisant.
Le mot laïque est intraduisible même en anglais.
Mais tout à fait. Oui, exactement. Mais même en Irak, au temps de Saddam Hussein, c'est vrai que moi j'y suis allée, donc à ce moment-là, les chrétiens étaient bien traités, même très bien traités, on peut dire, mais l'islam était religion d'État. Et pendant les 10 dernières années du régime de Saddam, beaucoup de contraintes ont été imposées aux chrétiens parce que Saddam voulait s'allier les bonnes grâces des voisins musulmans. Et par exemple, les parents chrétiens n'avaient plus le droit de donner des prénoms religieux chrétiens à leurs nouveau-nés. Ils donnaient des prénoms arabes comme Farid, Karim, qui n'ont pas de signification religieuse. Voilà, je suis désolée de vous avoir contrarié par rapport à Israël.
Non, mais bon. est-ce que pour en sortir, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux, je veux dire, parce que là, on a vraiment affaire à des gens qui sont persécutés pour des raisons religieuses. On a quand même affaire à une espèce de nettoyage ethnique ou ethnico-religieux culturel à petite vitesse, mais qui va finalement assez vite, puisqu'on voit la vitesse à laquelle ces gens doivent quitter leur pays. Encore une fois, des pays où leurs pères pratiquent cette religion depuis 17 ou 18 siècles, quand nous autres Européens n'avons été convertis qu'entre le 6e et le 11e, ce qu'on oublie souvent, et souvent par leurs ancêtres à eux, n'ont pas parler d'autres. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit, en tant qu'Union européenne, par exemple, s'adresser à l'organisation de la conférence islamique pour demander un minimum de réciprocité, puisque les droits des communautés musulmanes en Europe sont extrêmement, extrêmement sérieux. On va même jusqu'à les aider à construire des mosquées avec des fonds publics. La liberté de conversion des chrétiens à l'islam ou des athées à l'islam dans nos pays est tout à fait ouverte. Par contre, la conversion des musulmans au christianisme dans ces pays, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est des plus problématiques.
Même ici, il n'a que la conversion.
Moi, j'ai développé une réflexion sur ça, si vous permettez. On a l'habitude, nos dirigeants en Occident ont l'habitude de de projeter sur les réalités du Proche-Orient nos propres critères, donc laïcs, c'est comme ça. Mais ça fausse le regard et l'analyse finalement. On a beaucoup entendu depuis 2001, depuis la recrudescence des violences antichrétiennes, les hommes politiques occidentaux dire il faut protéger les minorités opprimées au Proche-Orient. Bon, très bien, ça part d'un bon sentiment, je l'accorde. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Il faudrait que nos gouvernements, tous les gouvernements occidentaux, ceux qui comptent dans le monde, disent aux gouvernements musulmans, nous tenons à ce que les chrétiens restent chez vous parce qu'ils ont un rôle spécifique à jouer en tant que chrétiens.
La conférence islamique, oui. Intervenir à la conférence islamique, peser.
Les sociétés orientales ont besoin des chrétiens, on l'a déjà
dit. Si je peux me permettre, le meilleur ami de l'Occident, c'est l'Arabie Saoudite qui interdit totalement tout culte. Et pourtant, il y a 700 000 chrétiens qui sont en général des Philippins, des Indiens, qui sont obligés de pratiquer le culte de façon clandestine. Donc, vous voyez bien que c'est des questions politiques et géopolitiques, puisque la France, les États-Unis sont les meilleurs amis de l'Arabie Saoudite, qui est le seul pays à interdire le culte, par exemple. Je peux prendre le cas de l'Iran, où j'ai vécu aussi longtemps, j'ai dirigé le bureau de l'AFP plusieurs reprises. Les communautés chrétiennes sont effectivement, ça menuise. Les Arméniens étaient, on dit, 250 à 300 000 au moment de la révolution islamique. Ils sont plus qu'entre 100 et 150 000. Mais elles peuvent s'exprimer. C'est pas simplement, c'est pour des raisons économiques et parce qu'ils se sentent mal, parce que les gens se sentent mal, parce qu'ils ont des contraintes du régime, qu'ils partent. Ils partent beaucoup, souvent. Il y a des organisations qui les aident à partir, faut dire ça aussi, qui sont maintenant, qui d'ailleurs prennent de moins en moins d'importance parce que les États-Unis se sont rendus compte que c'était pas une très bonne chose. Mais ces communautés ont beaucoup de vitalité, ont beaucoup elles sont peu nombreuses, mais elles manquent de droits certainement. La conversion est extrêmement difficile et ça c'est pas normal. Mais on ne peut pas nier leur vitalité et l'espérance qu'elles représentent.
Vous dites d'ailleurs, Jean-Michel Cadieux, ou plutôt vous citez un dominicain, Jean-Marie Mérigou, qui parle de ces chrétiens d'Orient un peu de la même façon que vous, en disant qu'ils sont encore extrêmement vivants, qu'ils ont une très forte vitalité. Ils ont subi, ils continuent de subir des drames, mais leur foi est admirable, dit-il. Et leur problème, ce sont aussi les Occidentaux. Les Orientaux sont très déçus de voir notre Église vide, alors que les leurs sont pleines.
Oui, pour eux, c'est dramatique, donner la foi qu'ils nous ont apportée, parce que Jésus était un oriental, un juif parlant araméen, tous ses disciples étaient des Orientaux, Saint Jacques est venu en Espagne et en France, était un disciple, était aussi araméen. Tous, Saint Thomas qui est allé jusqu'en Inde et peut-être même en Chine. Saint Marc est allé fonder l'Église d'Égypte. Nous devons, tous les grands-pères de l'Église, la plupart des grands-pères des pères de l'Église étaient des orientaux. Donc c'est vrai qu'assimiler le christianisme à l'Occident, ils l'ont mauvaise. Et personnellement, en tant que chrétien, parce que moi je suis chrétien, je l'ai aussi très mauvaise.
Moi, quand j'ai fait mon enquête dans tous les pays dans lesquels je me suis rendu, des chrétiens, justement, et je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Michel Cadieux et ce que vous venez de dire, c'est que des chrétiens me disaient, est-ce que nous sommes exotiques? Comment est-ce que vous allez parler de nous en Occident et comment l'Occident va nous recevoir et qu'est-ce que l'Occident aussi va faire pour connaître notre souffrance, alors que, ce qu'il vient de dire, nos églises sont pleines et les vôtres sont vides.
Alors, quelque chose aussi d'intéressant qu'on n'a peut-être pas encore mis suffisamment en lumière au cours de cette émission, c'est que les chrétiens orientaux sont extrêmement variés, extrêmement divers. Il y a des coptes en Égypte, on en a parlé, des maronites au Liban, des chaldéens, des assyro-chaldéens en Irak, des arméniens, des syriaques, des melkites. Est-ce que c'est pas aussi quelque part un palimpseste qui nous raconte l'histoire même du christianisme, en tous les cas de ses premiers temps? Et ça, c'est aussi, s'ils disparaissent, ça veut dire qu'on va perdre la mémoire des tout premiers siècles du développement de cette religion.
Oui, Annie Laurent. C'est un sujet qui m'est cher. Moi, personnellement, je porte un regard positif sur la diversité des églises d'Orient. C'est une mosaïque. Pour moi, c'est positif, le mot de mosaïque. Ça serait une grande perte, un dépérissement, un appauvrissement si l'Église perdait ce poumon oriental, comme disait le pape Jean-Paul II.
Jean-Paul II, justement, il me semble que c'est une avancée par rapport à au regard que le Vatican portait avant sur ces chrétiens d'Orient. On peut quand même le dire que leur orientalité a posé problème.
Tout à fait. Il y a eu une époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, où le Vatican cherchait à latiniser, comme on disait, les rites orientaux, bien sûr. Mais on en est revenu, c'est clair et net. Maintenant, il n'est plus question de latiniser les orientaux. On intègre bien dans l'Église catholique romaine les orientaux qui deviennent dominicains, jésuites, carmes, etc., bien entendu. Mais on ne cherche plus à latiniser les rites. On respecte la diversité. On a pris conscience que c'est une très grande richesse. Et le jour où il y aura l'unité entre tous les chrétiens, ça devrait venir normalement, hein, la diversité des rites, des liturgies, des disciplines sera maintenue.
Puisque vous citiez Jean-Paul II, je vais donner la parole à Sébastien de Courtois en lui demandant de nous expliquer la position du Vatican aujourd'hui sur les chrétiens d'Orient. Parce que il m'avait semblé repérer dans la presse que la politique de la France, qui est d'accueillir sur le territoire français notamment les chrétiens d'Irak, avait suscité l'inquiétude du Vatican. Parce que finalement, le Vatican préférerait que les puissances orientales encouragent plutôt les chrétiens à rester sur place. Il y a encore des vocations aux martyrs, finalement. Sébastien de Courtois.
Non, je crois qu'il ne faut pas schématiser. Mais je crois qu'il n'y a pas que le Vatican qui pense ça. C'est-à-dire que tous les gens qui habitent dans ces pays-là, au départ, ne veulent pas partir. Je crois qu'il faut avoir véritablement conscience que c'est un drame pour tout le monde de quitter son village, de quitter son quartier, son métier, ses amis, et d'aller au Canada, en Australie, ou je sais pas où, très très loin de chez soi, où on parle une langue étrangère. Je crois que l'intérêt finalement de ces communautés est effectivement de rester chez elles, alors dans la mesure du possible, et les autorités, dont le Vatican, effectivement, voient d'abord s'il n'y a pas des solutions locales à développer, donc pour les églises catholiques, parce qu'il y a tout un tas d'églises orthodoxes qui ne dépendent absolument pas d'autorités catholiques. Il faut bien faire attention, parce qu'ils sont parfois sont la majorité, hein. Les communautés catholiques sont très très minoritaires quand même dans tous ces pays-là. Et je crois surtout pour l'Irak, en tout cas pour la situation que je connais bien, ayant publié là-dessus, c'est que effectivement les églises locales n'appellent pas au départ. Et la grande erreur a été quand on a donné des visas directement à des Irakiens et des Chaldéens en Irak et non pas des gens qui avaient été contraints de partir. Alors ça c'est une affaire de diplomatie ensuite. Donc je crois qu'il faut faire très très attention, mais il y a une action sérieuse qui doit être entreprise, effectivement, de dialogue, d'explication. Vous parliez de réciprocité, pourquoi pas dans certains pays, effectivement. Je pense à la Turquie dont le processus par rapport à l'Union européenne est déjà bien entamé. Je pense effectivement à d'autres pays où un minimum de droits en contrepartie serait effectivement souhaitable. Juste un petit parenthèse sur l'histoire. C'est pas simplement l'histoire du christianisme qui risque de disparaître. C'est l'histoire de ces pays-là aussi. Parce que qu'étaient les gens avant d'être musulmans? Ils étaient chrétiens dans la grande majorité des cas. Donc c'est leurs propres origines à eux aussi, c'est leurs propres histoires. Et je crois qu'il faut véritablement revenir à la notion d'altérité.
Juste un mot de conclusion. Qu'est-ce qui explique à vos yeux le succès du film de Xavier Beauzois, sur les mains de Tibérine, des hommes et des dieux?
Peut-être qu'on n'a plus l'habitude de voir un message religieux d'une telle force dans nos sociétés sécularisées.
Une nostalgie?
Oui, une nostalgie et en même temps un raccourci par rapport à la guerre d'Algérie. Moi, j'ai fait la guerre d'Algérie et je dois dire que ces moines qui sont assassinés, non pas à raison de leur foi, mais parce qu'ils sont là et parce qu'ils sont aussi chrétiens, malgré tout, nous réconcilient quelque part avec le combat, non pas des intégristes après l'indépendance, mais pendant.
Je remercie Raphaël Delpart. Je rappelle que vous êtes écrivain et cinéaste. Vous venez de signer un livre intitulé « La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde » chez Michel Lafond. Merci à Annie Laurent. Vous êtes docteur d'État en sciences politiques. Vous êtes spécialiste des chrétiens d'Orient et des relations islamo-chrétiennes. Vous venez d'être nommée experte au synode des évêques pour le Moyen-Orient qui s'ouvre ce dimanche. Et vous avez signé aux éditions Salvator « Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître entre souffrance et espérance ?» Sébastien de Courtois, vous étiez au téléphone avec nous depuis Istanbul. Vous êtes historien et juriste, vous êtes à l'école pratique des hautes études et vous avez signé notamment le nouveau défi des chrétiens d'Orient d'Istanbul à Bagdad chez Lattès et vous allez faire paraître le mois prochain la Turquie biblique, un itinéraire culturel aux éditions Empreinte Temps Présent. Jean-Michel Cadiot, vous êtes journaliste à l'AFP, vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé Les chrétiens d'Orient, vitalité, souffrance et avenir qui va paraître aux éditions Salvator en décembre de cette année.
Demain, vendredi, vous retrouverez Joseph Confavreux qui sera en direct et en public de l'espace Georges Sadou, la Saint-Dié, avec ce sujet, un droit d'ingérence écologique est-il souhaitable? Nous nous retrouverons quant à nous lundi et nous poserons la question suivante. N'y a-t-il qu'une différence de degré entre le tragique et le comique? Ce sera avec Jean-Michel Ribes, Gérard Rabinovitch et Raphaël Enthoven. Ne manquez pas demain les matins de France Culture. Marc Manchet recevra Benjamin Stora, historien et d'ailleurs spécialiste de l'Algérie contemporaine et de l'immigration algérienne en France. Benjamin Stora qui est cité dans ce grand dossier de Marianne sur les intellectuels à paraître également. Il est 19h sur France Culture. On retrouve le rendez-vous.